Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, on continue le mois d'avril, le mois autour des sexualités. Comme si on en parlait peu avant, mais bon, j'ai décidé d'en parler encore plus en avril. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et je suis même avec deux invités. Et je suis ravie. Elles sortent un bouquin qui s'appelle Sex Talk. Vous l'avez peut-être déjà vu passer partout sur vos réseaux sociaux si vous suivez les mêmes que moi, c'est-à-dire ceux des meufs qui aiment bien parler de cul. Et donc, je reçois aujourd'hui Olympe de G.
Bonjour.
Bonjour, chère madame. Ça va?
Ouais,
c'est
ça
cool.
Va super.
Et Stéphanie Estournet.
Bonjour, madame.
Salut, salut. Et donc, vous venez de sortir ce livre, je viens de le dire, qui s'appelle Sex Talk aux éditions
L'Iconoclaste.
L'Iconoclaste. Un éditeur incroyable.
Incroyable.
Voilà. Il paraît que l'éditeur est beau. Voilà. C'est trop tard, je l'ai dit. Bon, non, mais c'est pas pour ça qu'ils sont si bien. Ils sont vraiment si bien parce que leurs publications sont de qualité. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de votre bouquin. Pitchez-le-moi vite fait, vite fait.
Eh ben, c'est des conversations entre Stéphanie et moi sur ce que le féminisme peut apporter à l'intime. Mais ce sont des conversations justement où on a des avis qui peuvent diverger, où on s'interroge plus qu'on essaie de s'intimer des vérités, quoi.
D'accord. Et donc, vous avez mené beaucoup d'enquêtes. Enfin, vous avez des ressources très, très, très larges, très multiples, rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de points de vue. Et on parle de ça après le générique. C'est parti.
Salut, c'est Madame Meuf.
Oh,
yeah. Et bam. Et bam. C'est Madame Meuf. Donc, Stéphanie, toi, tu es journaliste et autrice. Olympe, toi, tu es réalisatrice et autrice. Et vous avez donc décidé d'écrire ce bouquin de conversation entre amis, parce que vous vous connaissez, vous êtes amis dans la vie.
Tout à fait.
Mais vous avez, sur les questions de l'intime, vous n'abordez pas ça du tout de la même manière. Et en fait, vous n'en parlez pas du tout pareil, c'est ça?
On n'a pas du tout les mêmes parcours. Je pense que ça vient essentiellement de là. Et puis, on n'a pas les mêmes visions. Après, on n'a pas les mêmes visions sur des détails. Très souvent, si tu regardes, c'est sur des détails qu'on n'est pas. Voilà, on n'a pas les mêmes expériences. Et en revanche, sur les visions, disons globalement politiques, pour le dire vite, ben oui, on est assez raccord quand même.
D'accord. Et justement, la question, c'est le sexe est politique. Et c'est ce que je disais, Olympe, quand on a échangé avant ce podcast par message. Je te disais, là-dessus, on est trois personnes enfermées dans notre petit studio. Je crois qu'on est assez d'accord, toutes les trois, pour dire bien sûr que le sexe est politique, bien sûr que l'intime est politique, bien sûr que le social infuse à mort dans nos manières de sexer. Mais dans la manière d'écrire votre bouquin, vous avez rencontré plein de gens hyper différents. Est-ce que c'est le cas pour au-delà d'une minorité? Est-ce que les gens vraiment considèrent largement que le sexe est infusé et influencé par le social?
Ben non, justement, et c'est un petit peu ces questionnements-là qu'on essaie de faire entrer dans la chambre, enfin juste chez les gens, quoi. Parce que, moi de mon expérience, ça peut être extrêmement libérateur. En fait, il y a plein de champs dans notre vie qui sont impensés. Par exemple, notre vie romantique, on a tendance à penser que ça doit être absolument, ça doit rentrer dans un certain cadre. Je donne un exemple à la con, sur les applis, on demande soit des plans cul, soit des choses sérieuses. C'est, voilà, on a l'impression qu'il faut faire rentrer les choses dans les cases. Et pareil, sur le féminisme, il va vite y avoir soit on est féministe militante et on coche aussi toutes les cases de l'aisselle velue, on s'imagine la personne qui va peut-être vouloir être un petit peu dominante au lit. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de clichés. Et nous, on essaie plutôt justement de dire, OK, si on réfléchissait à ça, si on se questionnait chez nous et si on se demandait si on ne peut pas juste remettre en question ce qu'on vit. Et puis, on peut le remettre en question et se dire, ça me convient très bien. On peut le remettre en question et se dire, ah, tiens, j'essaierais bien quelque chose de différent.
Mais dans les entretiens que vous avez menés, par exemple, vous aviez un questionnaire identique pour tout le monde ou vous avez... Parce que les gens, est-ce qu'ils étaient opérationnels à partager tout ça? Est-ce que c'était facile? Parce que justement, tu dis, c'est rentrer dans la chambre à coucher. Comment vous avez... Est-ce que vous aviez une envie de débattre ou de les convaincre, ou alors au contraire uniquement de prendre le pouls de la société aujourd'hui?
Je ne suis pas sûre qu'on essaye de convaincre qui que ce soit, parce que de toute façon, on est sûr d'avoir raison. Donc, voilà.
C'est bon.
Non, mais blague à part, on n'essaye pas de convaincre. On essaye déjà, nous, entre nous, comme tu disais, on n'est pas toujours d'accord. Et donc, si on commence à essayer de se convaincre toutes les deux, on va pas très loin, quoi. Mmh. Donc, on essaie juste de réfléchir. Et le fait, de, tu vois, la forme du bouquin, comme ça, de discussion entre amis, ben, c'est ça, en fait. C'est de, ben, chacune arrive avec ses expériences, avec des témoignages qu'il y a autour de soi. Et puis, ben, on met ça un peu en commun et puis on essaye d'en tirer quelque chose. Moi, à titre personnel, sur ces sujets de l'intime, je travaille beaucoup sur le... j'écoute les nanas autour de moi. Et donc, moi, j'ai 54 ans. Les meufs autour de moi, elles commencent à se déconstruire. Et c'est absolument fascinant à regarder, à écouter. Et parce que chacune va à sa vitesse. Et je crois que vraiment, tout le truc qu'il y a dans le bouquin, c'est ça. C'est, bah, toi, comment tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, c'est super chelou comme truc. Et ou génial. Et qu'est-ce qu'on apprend les unes des autres, en fait ? C'est vraiment, on est que là-dedans.
Sur quel thème, par exemple, vous avez vu des différences majeures ?
Bah, par exemple, pour moi, il y a eu une phase de ma vie où j'ai trouvé une libération et même quelque chose d'assez thérapeutique dans le fait d'exposer ma sexualité, un peu un retournement de stigmate, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup traité de salope de mes 13 ans à mes 33 ans, et en fait, à 33 ans, je fais, bah écoutez, je vais faire du coup la méga salope et je vais en être fière. Mmh. C'est là que j'ai commencé à engager mon corps dans la pornographie, mon corps et mon cerveau, enfin tout, et donc à la fois à performer et à réaliser. Et ça, pour moi, ça a été crucial. Et ce n'est pas du tout quelque chose, par exemple, qui a un attrait pour Stéphanie. Elle comprend intellectuellement la démarche, mais elle, ça n'a... Voilà,
oui, alors moi, je comprends d'autant plus la démarche. Enfin, pour le coup, c'est un truc dont je parle peu. Donc, voilà, j'en parle. comment dire, la pornographie, c'est un truc avec lequel j'ai grandi. Et peut-être que les gens de ma génération ont été beaucoup moins en contact avec ça. Et donc, c'est un truc que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai aussi beaucoup caché, parce qu'une nana qui regardait de la pornographie dans les années 90, bof, quoi. C'était immédiatement une salope ou une professionnelle. Donc, j'ai un regard je vais te dire professionnel, ouais, sur le truc, et un regard peut-être un peu militant, c'est-à-dire que quand je vois le rapport du Sénat, par exemple, voilà, je peux te dire immédiatement pourquoi d'emblée c'est de la merde, quoi.
Mais t'as jamais eu envie, toi, de te mettre à poil sur Internet ?
Absolument jamais, et c'est même beaucoup plus que ça. C'est même, je veux dire, c'est une très bonne question. Enfin, c'est un point pertinent parce que je suis dans un contrôle absolu de tout ce qui est image. Vraiment, là, on touche à deux points, mais vraiment très, 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 très opposés, ce qui m'empêche pas de parler très librement.
Parce que toi, Olympe, pour toi, il y a justement un geste militant. C'est marrant parce que quand on parle de pornographie, alors moi, je suis à la jonction de nos générations. En fait, on a chacune une dizaine, je pense. Moi, j'ai 44 ans et pour le coup, moi, la pornographie, j'en ai consommé à titre récréatif sans point de vue particulier, juste parce que en 30 secondes, ça m'excitait, bam, branlette, sans imagination et efficace. Et donc, je n'avais pas de jugement politique là-dessus. Si, enfin, je voyais bien que la nana était écartelée dans tous les sens et que ça ne correspondait pas à ma sexualité. Et puis ensuite, j'ai commencé à mettre des mots dessus de féministe, tu vois. Et puis, il y a eu des films comme les tiens, tu vois, qui sont venus apporter une autre manière de faire de la pornographie. Mais toi, donc pour toi, Olympe, il y a l'idée d'investir le militantisme par le corps. C'est-à-dire que toi, le social dans le corps, c'est carrément hyper assuré. Alors qu'il y a aussi tout ce qui est complètement insidieux dans nos choix. Tu vois, tu dis, moi, je matais de la pornographie dans les années 90, Stéphanie, avec un regard très, très en retrait, etc., très observateur. C'est rare. Enfin, tu vois, sinon, ça nous dégouline quand même à mort dessus, quoi, non ?
Bah... Non, je ne sais pas quoi dire.
Disons que toi, oui, c'est pas clair. C'est le principe de la question de 45 minutes. c'est hyper simple. Et donc, non, toi, Olympe, c'est-à-dire le corps, pour toi, il y a un aspect militant.
Oui. Pour moi, c'est vrai que c'était important d'engager mon corps. Alors après, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de personnel, d'apprendre à m'aimer en me voyant à l'image. Mmh. Il y avait aussi un truc de légitimité, c'est-à-dire que je voulais faire tourner des gens devant une caméra et je me trouvais... je voulais pas faire la couarde. Alors, je traite personne de couarde, hein, mais en tout cas, moi, c'était le jugement que j'avais de moi, sur moi-même. Je voulais pas me planquer derrière la caméra disant « Regardez comme c'est beau la sexualité féminine, soyez-en fiers !» Et moi, je suis en parka, voilà.
Je suis en parka à côté. C'est bon, ça. Avec mon chien.
Donc, non, voilà. Moi, je voulais vraiment le faire à fond, etc. Et puis maintenant, avec le recul des années, je pense qu'il y avait quand même aussi un truc un peu hétéro-patriarcal intériorisé, où j'avais un peu besoin de me prouver que j'étais bonne meuf. Ouais. Et en fait, une fois que tu as fait du porno, tu es étiquetée bonne meuf pour toujours. Après, tu peux t'habiller en jogging, tu dis au gars que tu croises, j'ai fait du porno, c'est bon, quoi, tu as ta carte de visite de bonne meuf. Et ça, maintenant, je crois que je me l'avoue, alors que tu vois, il y a du coup 9 ans, combien, je sais plus, 7, enfin bon, bref, il y a longtemps, je me l'avouais pas.
Mais jamais, parce que quand même, l'étiquette porno féministe, c'est toi qui l'as donnée ou elle a été donnée?
Non, elle existait.
Tu vois, elle existait. Et donc, il y avait quand même. Dans ta démarche, au final, il n'y avait pas tant la volonté d'en faire un geste politique aussi en ça, en disant. Enfin, si, tu vois, c'est affirmé comme ça.
Non, là, je me confie après coup. Je fais mon analyse en. Tu vois, là, avec toi. Non, à l'époque, c'était vraiment complètement politique. C'était motivé par beaucoup de colère. Mmh. Et puis après, voilà, les années passent. J'ai arrêté assez rapidement d'engager mon corps. Et d'ailleurs, pour des raisons qu'on pourrait discuter, parce que, notamment parce que histoire d'amour, difficulté à sortir de l'hétéronormativité, de la monogamie, etc., dans ces histoires d'amour. Et donc, du coup, porno mis de côté. Enfin, voilà, en fait, c'est de ces contradictions-là qu'on parle beaucoup avec Stéphanie, parce que c'est vrai que en fait, même quand tu es une féministe un peu à fond, comme on peut l'être, en fait, pour vivre dans ta vie, notamment si t'aimes les hommes, t'es obligé de faire plein de compromis, quoi. Et c'est sur ces questions-là qu'on se pose. Parce que ça fait pas de nous des mauvaises féministes, tu vois, c'est quoi...
C'est quoi la nuance là-dedans? C'est quoi l'application dans les réalités quotidiennes?
Comment tu fais? Alors, en plus, moi qui suis exposée sur les réseaux sociaux, je me suis pas mal fait insulter par d'autres féministes quand j'étais trop... jugée trop molle, tu vois, trop centriste du féminisme.
La Giscard d'Estaing du féminisme. Voilà.
Mais du coup, en fait, ce qu'on se demande, c'est comment ne pas passer d'une injonction, tu vois, hétéronormative, patriarcale, où tout nous est dicté par le regard des hommes, par notre envie d'être validé par les hommes, à d'autres injonctions féministes.
Sûr, à l'obligation de s'interdire, de se tenir à jour de tout.
Et puis il faut pouvoir trouver. Enfin, c'est bien d'aimer. J'ai une copine qui m'a dit une super phrase là, il y a deux jours, qui m'a dit il faut vraiment beaucoup aimer les hommes pour les aimer. C'est une citation, c'est pas elle qui l'a sortie comme ça, mais on sait pas de qui c'est.
Mais c'est pas d'un homme, je crois.
Non.
C'est tout ce qu'on veut dire. Hyper questionnant pour moi. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus et pareil, j'avais dû me faire un peu insulter. Je me suis rendu compte un jour que j'avais simulé avec un gars là, qui sortait de nulle part. Et enfin, cette question, elle revient souvent dans les conversations entre potes, mais est-ce que tu peux simuler être féministe? Parce que, en soi, c'est complètement teubé de simuler, à part donner une mauvaise info en disant, j'ai adoré, alors que t'as pas du tout aimé. Donc, le pauvre vieux, si on lui dit rien, il va pas comprendre non plus. Et puis, à dire, mais comme ça, c'est fait. Donc, c'est, consentement, etc., etc. Et puis, ce jour-là, je l'ai fait parce que, au début, ça me motivait moi-même. Ça faisait partie du délire. Et puis, le lendemain, tu vois, je l'ai eu un peu sèche, un peu raide, en disant, t'es vraiment une merde. Mais donc, tu vois, par exemple, typiquement là-dessus, est-ce que vous croyez que ça fait partie d'un truc où c'est même pas une injonction, tu vois, c'est un truc de libération, faudrait arrêter de faire ça.
En fait, pour moi, là, ce que tu décris, c'est pile la déconstruction. C'est-à-dire que, je sais pas, si on décale juste deux secondes sur le pot-au-feu que tu vas manger et que tu vas faire l'effort de manger alors que t'aimes pas du tout le pot-au-feu.
C'est vrai, je n'aime pas.
Mais voilà, non, mais tu vois, il faut aller dans la réalité des choses. Et tu vas manger le pot-au-feu parce que t'es invité. Bon, tu pourrais faire autrement. Tu sais très bien que tu peux faire autrement. Mais tu le fais pas parce que t'as plein de mauvaises raisons et de bonnes raisons pour ne pas le faire. Voilà. Et tu dis pas que le pot-au-feu, ça te fait gerber en vrai.
Ouais.
Et voilà. Donc, pour revenir à l'exemple que tu donnais, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que vraiment, la déconstruction, c'est ça. C'est, je pense, donc, etc. Mais je pense et je me rends compte que Je me rends compte que ça ne me convient pas. Je me rends compte que j'aurais pu faire comme ci et comme ça. Je me rends compte, etc. Et le fait simplement d'y penser et de revisiter le truc. Et alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas se flaque, tu vois, la flaque.
Aux orties fraîches.
Ouais. Voilà. C'est ce truc-là et qu'on a tendance à faire.
Bien sûr.
Tu vois,
oui.
Ça, c'est pour, voilà. Et donc, vraiment, pour moi, cet épisode que tu racontes, il est pile dans ce qu'on traverse et ce qu'on a raison de traverser. En vrai.
Oui. Et en plus, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur le fait d'avoir honte et de s'en vouloir et tout après, c'est là que nous, on propose les vertus de l'échange entre meufs. Parce que souvent, en fait, on s'isole dans ces situations-là. On se dit, putain, j'ai pas assuré, on rumine un peu seul. Alors qu'en fait, si t'échanges avec les autres meufs, c'est là que tu trouves, en fait, l'empouvoirment, la force. Ouais. Parce que t'en as toujours une, en fait, qui a eu la ressource. Tu vois, dire, ah, mais t'as déjà essayé, en fait, de juste proposer aux mec, tu vois, au milieu, que
oui, d'arrêter,
de plutôt regarder une série que t'aimes bien. Et en fait, ça peut être une solution, il peut y en avoir 15 autres, quoi. Mais pour sortir de ça sans créer une crise. Mais c'est vrai que, par exemple, sur l'exemple du pot-au-feu, si t'as jamais expérimenté de dire non merci ou alors juste les carottes, il faut un moment que quelqu'un te souffle, tu vois. Enfin, en en parlant avec les autres, on te dit, mais t'as essayé, par exemple, je sais pas, de prendre un Tupperware avec toi.
Et il y a un truc aussi si on veut venir, que ce soit sur le pot-au-feu ou sur ton expérience, peu importe. C'est que l'expérience d'une autre personne, en fait, c'est pas forcément une expérience justement de super experte. C'est-à-dire que t'as plein de meufs. Enfin, moi, je sais que depuis que j'ai beaucoup fréquenté d'hommes dans ma vie, en fait, pendant très longtemps, et soudain, je me suis mise à. Enfin, j'ai rencontré des femmes et je me suis rendu compte que les femmes, c'était pas si con, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai entendu des paroles de femmes, et vraiment toutes sortes de femmes, justement, des femmes qui sont hyper dans des trucs, tu vois, que tu pourrais penser hyper stéréotypées, tout ça, sous injonction, etc. Et en fait, tu te rends compte que elles ont des trucs à t'amener. Elles ont des trucs à t'amener que, tu vois, toi, t'arrives avec ta galère et tout, tu racontes ta petite anecdote. Et là, elles vont te dire, mais t'as pensé à... Et là, t'es là, ah ouais, putain.
Mais justement, tu parles des gens qui sont totalement en désaccord avec toi. Vous avez réussi à être convaincu, vous, dans les rencontres que vous avez faites par des gens qui pensaient pas du tout comme vous?
Bon, on est plutôt allé vers des gens qui pouvaient apporter un éclairage. Enfin, là, les interviews qu'il y a dans le livre, c'est plutôt des gens qui viennent apporter un éclairage sur des points sur lesquels on s'interroge, que ce soit sur l'histoire du féminisme, sur la déconstruction de la pénétration.
Marie Kirchen, Martin Page, Martin Winkler.
Le rapport aussi... parce qu'en fait, on parle de sexualité, mais c'est large, en fait, la sexualité. Ouais. C'est beaucoup plus large que... C'est pas juste nos rapports avec les partenaires, C'est aussi le rapport à soi. Et la vie sexuelle, c'est aussi quand on va chez le gynéco, quand on accouche, etc. Ouais. Donc, on parle aussi de ça. Et du rapport au consentement, à affirmer ses limites, etc., aussi dans un contexte médical. Donc oui, il y a Martin Winkler qui vient aussi apporter sa parole là-dessus. Ouais. Donc on n'a pas donné des tribunes à des personnes à qui on était avec qui on était en désaccord.
Parce que, en fait, justement, c'est là où, pour avoir ce genre de dialogue, il faut déjà... être quand même très proche soi-même de soi, enfin, même si le soi est mouvant, mais je veux dire, il faut déjà se connaître bien et oser connaître. Comme tu disais tout à l'heure, Stéphanie, je commence à voir autour de moi que ça se déconstruit sérieusement. Je vous disais tout à l'heure avant de commencer, mais hier soir, j'ai regardé How to Have Sex, qui est le film qui a eu le prix Un Certain Regard à Cannes. Et c'est sur le consentement, beaucoup. C'est en fait des jeunes anglaises qui partent en spring break et tout ce qu'on peut imaginer, des trucs d'alcool à mort, du machin, et de situation de premier rapport sexuel. C'est bon, elle l'a fait un peu parce qu'il fallait le faire, machin. Et justement, sur la question de la pression sociale, ça m'a... je trouve que c'est compliqué, tu vois, sur beaucoup de sujets aujourd'hui, de parler sans tabou, effectivement, et c'est pour ça que des bouquins comme le vôtre sont vraiment trop bien. Ce qu'on dit tout le temps, on brise les tabous, on brise les tabous, hein, on brise les tabous. Mais non, on brise pas du tout les tabous. Enfin, tu vois, quand tu vois des nanas de 20 ans, 30 ans qui continuent à faire des vidéos ou des podcasts ou des, je sais pas quoi, en disant ah, mais les grosses bites, c'est quand même important. Et le, enfin, tu vois, c'est non, on brise pas les tabous en faisant ça. Et voilà, bon, bref, je sais pas pourquoi.
Tu veux qu'on brise 2-3 tabous là ?
Non, mais en fait.
non, mais moi j'en ai un.
Bah, oui, non, mais il y a quand même une difficulté à trouver des gens avec qui tu peux parler honnêtement et sans. Tu vois, je trouve ça
compliqué. Moi, je trouve qu'il y a quand même un super pouvoir qui est que toi, quand tu commences à le faire, ça donne envie aux gens autour de toi de le faire. Et là, on en vient un peu à la conversation qu'on avait en off avant de commencer, qui est... Enfin, moi, c'est ce que je pratique, c'est-à-dire que mettre mon intime comme ça en public, que ce soit par le porno ou par la parole, je considère que c'est thérapeutique et ça m'émancipe beaucoup, mais aussi les gens autour de moi vont se mettre à parler de ça. Mmh. Par exemple, un sujet que moi, je considère comme étant tabou, tu vas me dire si c'est un tabou pourri ou pas, mais le fait de pas baiser alors que t'es en couple, moi je considère que c'est un méga tabou.
C'est ma passion dans ma vie comme sujet.
Ben non, mais moi, en ce moment, tu vois, je suis en couple et je baise pas beaucoup. Et ça doit faire, 6 mois. Et en fait, c'est un truc qui est très récurrent dans ma vie amoureuse. Et pendant très longtemps, par exemple, je me suis vachement culpabilisée là-dessus. Je me suis trouvée dysfonctionnelle et tout. Et en fait, tu vois, il y a un moment où, quand tu te mets à en parler, et Ovidie aussi le fait beaucoup, disant que c'est le secret le plus gardé, mais qu'en fait, t'as plein de gens qui baissent pas, quoi. Ouais. Et c'est OK. Et ça, c'est aussi un truc à prendre en compte, tu vois, typiquement dans les démarches féministes, parce qu'on est dans un féminisme sexe-positive, où il est très important quand même de s'interroger sur les injonctions qu'on envoie aux gens. En fait, on n'est pas obligé d'avoir 30 000 sextoys, de se masturber 8 fois par jour. Et voilà,
sur les performances, sur la notion de performance, parce qu'on parle on parle beaucoup de performance autour des hommes, enfin de la sexualité des hommes, les pauvres chouchous. Et en fait, la performance des femmes, elle existe. Elle existe, c'est la performance d'être bien comme il faut.
Oui, d'être bien lisse.
Voilà, d'être bien lisse, d'avoir la petite lingerie. Enfin, il y a des jours où il faut mettre de la lingerie, il ne faut quand même pas déconner, tu vois. Et puis, il faut être disponible. Enfin, je veux dire, des injonctions de performance, il y en a partout, en fait.
Mais justement, alors, il y a aussi des couches dans le millefeuille. La pression sociale, elle est... Non, mais il y a des couches à mort, parce que... ça, je crois que c'était un sketch de Marina Rollman dans son spectacle, qui disait « Ah, mais moi, je m'épile pour moi !»« Ah bah ouais, c'est pour moi !» Mais non, enfin, d'où c'est... En fait, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pas pour toi? Parce que moi, le nombre de fois où on me dit oui, mais moi, et c'est vrai, il y a quand même une démarche. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai mis mon nouveau petit sweatshirt de catégorie fast fashion.
Alors, personne le voit,
mais il est très beau. Et ben donc, je me dis, youpi, j'ai mis ma petite jupe qui brille, je suis heureuse et c'est pour moi. Et bien sûr que ça va jouer sur mon mental de la journée, plus que si je me balade en guenille et que je fous pas le nez dehors. Mais ça va jouer sur mon mental aussi parce que je vais plaire à des gens, etc., etc. Et en fait, dans quelle mesure tout ce truc de pression sociale, ça va du pire, évidemment, l'injonction à vas-y, couche, comme dans le film là, dont je vous parlais l'autre jour, tout à l'heure, mais ça va aussi à plus loin, qu'est-ce qui est vraiment mon libre choix, tu vois
En fait, tout ce gloubi-boulga, justement, cette espèce de brouillard dans lequel on peut être, genre, qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui relève de, comment on appelle ça, l'injonction intériorisée?
Du
truc que tu as complètement assimilé.
Comme le truc quand tu bois de l'eau au robinet, que tu prends des pesticides. C'est pareil.
Non, mais c'est, tu vois, quand on t'a toujours dit, quand tu étais petite, il faut que tu sois bien habillée pour sortir, en fait, tu l'as complètement intégré et en fait, tu continues à te dire, il faut absolument que, tu vois, que j'ai passé le rouleau anti-poil de chat et tout avant de sortir.
Mais bien sûr, moi, je me le dis souvent.
Moi, je sors pas sans que le rouleau de poil de chat soit passé, quoi.
C'est bon.
Non, mais attends. Donc, la déconstruction, pour moi, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui est de l'injonction sociale.
Ouais, ouais.
Et c'est tout le travail qu'on propose. Et c'est pour ça qu'on s'interroge sur ces trucs-là. Parce qu'en fait, quand tu arrives à te poser la question, et même à expérimenter. Alors, typiquement sur les poils.
Bah oui, les poils, parlons-en, parce que justement, moi je m'en souviens du passage des poils, parce que justement, on n'a pas la même position. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais il est en même temps très approprié. Moi, mes poils, je les enlève la plupart du temps. Et en fait, quand je les enlève pas, C'est juste que j'ai pas envie de les enlever. Donc, je me sens hyper tranquille.
Ouais.
Tu vois ? Et je me suis rendu compte, j'ai deux filles mm-hmm. Qui sont ados, post-ados, on va dire. Mm-hmm. Et elles sont hyper tranquilles avec leurs poils. C'est
ah
pareil.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elles peuvent être velues, mais de chez velues,
ah
quoi.
Ouais.
Et elles se rendent bien compte qu'on les mate et tout ça. Hein. Ouais, elles s'en rendent compte qu'on les mate, que voilà, qu'il y a des regards, tu vois, tordus. Mmh. Elles en ont rien à carrer.
Moi, ma gamine va avoir 13 ans et j'aime autant te dire que c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est une fois, je sais plus, je l'ai aidé à s'épiler. Il y avait des voisins, genre à 600 mètres dans un immeuble en face. Il fallait se foutre de timide dans la cave pour le faire parce qu'il fallait pas qu'on le voie. Et en fait, j'ai foiré. Non, mais en vrai, moi, elle est complètement. Elle est encore petite, tu vois. Elle va avoir 13 ans. Et donc, elle n'est pas encore dans un truc « j'assume, j'y vais, je m'en branle ». Elle est dans le regard social pur et dur, quoi, tu vois.
Moi, ça m'a pris hyper longtemps d'assumer, oui, d'avoir mes tibias poilus, franchement.
Ouais.
Et là, bah, maintenant, j'y arrive bien. Mais en même temps, je ne m'habille plus du tout pareil. En vrai, je suis tout le temps en pantalon.
Ouais.
Et il y a des moments où je sais que je vais faire des fixettes à la plage, tu vois, par exemple.
Oui, puis bon, là, je crois qu'on revient encore sur un sujet qui est super important, c'est chacun son rythme, quoi.
Tranquille. Oui, t'as raison. Oui, il y a une histoire de rythme, il y a une histoire d'habitude aussi, il y a une histoire de...
Carrément.
Oui, il y a une histoire d'habitude, ouais, aussi d'habitude.
Il faut un peu se foutre la paix, quoi. Enfin, tu vois,
c'est-à-dire et puis, ce n'est pas des niveaux de jeux vidéo. Enfin, tu sais, c'est
non,
pas
c'est
genre, ah là, ça y est, ouais. je m'épile plus la chatte, ouais. Tu vois, niveau 1.
Ce serait bon, ça, féministe premium.
Niveau 10, c'est la moustache, tu vois.
C'est bon, les gars, j'ai gardé la stache.
Pardon, je t'ai coupé.
Non, non, mais je serais vraiment, je serais très bas, du coup.
Et sur les trucs de au-delà de l'injonction, sur le plaisir propre, par exemple, sur l'orgasme, est-ce que vous parlez, par exemple, de l'inégalité d'orgasme entre les femmes, les hommes?
Ouais. Alors, l'orgasme gap, comme on l'appelle. Hein. Donc, en gros, c'est l'idée, c'est de dire, c'est constaté, il y a multi-études sur le sujet, en France et ailleurs. C'est, en gros, pour le dire court, et je parle de rapports hétérosexuels, les hommes, ils arrivent au bout, ils jouissent. Les femmes, beaucoup moins, voire beaucoup moins, voire pas. Voilà. Et le gap, le fossé qu'il y a entre les deux, ce serait bien que ce soit plus un fossé et que les meufs jouissent.
Et puis ce que tu expliques aussi, c'est que en fait c'est pas biologique en fait, c'est pas le mythe du fait
c'est dur de faire jouer les femmes,
qu'on ait peine à jouir. En fait, pas du tout, parce que quand tu regardes les stats des couples entre femmes, tout va bien,
il y a
86% d'orgasme de tous les côtés.
Et puis de la masturbation aussi, tu vois. Où tu vois qu'en 36 secondes, c'est réglé. Ouais.
Alors justement, le truc, je pense qu'il y a là, sur ce sujet-là, il faut parler de masturbation, parce que la masturbation, ça va nous permettre, à nous, les meufs, d'apprendre à connaître notre corps, à connaître notre plaisir et à se consolider là-dedans. C'est-à-dire, tu vois, tu peux dire, quand t'as pas pratiqué, tu te retrouves devant un homme. Effectivement, mettre sa main à sa chatte pendant une pénétration, tu te dis, ouais, mais comment il va mal le vivre parce que chouchou, il va, tu vois.
Ouais, mais ça dépend vachement de milieu, ça dépend d'autorisation, ça dépend de plein de trucs, tu crois pas?
Ouais, mais ça, justement, en tout cas, avoir conscience de ce qui nous fait plaisir et l'amener dans le rapport.
Ouais.
C'est une option. Et c'est une option qu'il est important de considérer.
Et puis en plus, c'est une option pour être safe. Parce que bon, faut pas oublier que quand on est une femme, on a quand même des chances de vivre des violences sexistes et sexuelles. Donc, y a un truc, enfin moi c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, c'est, tu vois, on parlait d'injonctions que t'as intériorisées.
Ouais.
Moi je me suis beaucoup forcée à coucher avec des conjoints, avec des plans cul, enfin tu vois, genre non je vais pas le laisser, enfin tu vois, tu veux pas être la lumeuse, etc. Ouais. Quoi. Je sais plus où je voulais aller avec ça. L'auto-forçage.
Et bien que justement d'amener sa propre sexualité,
oui, voilà,
son auto-sexualité
et donc, en fait,
dedans et de l'intégrer au
en
rapport.
Fait, on est quand même dans un climat où tu peux, si t'es pas violenté, tu peux t'auto-violenter.
Oui,
pratiquer, c'est là-dessus que je voulais aller. Le fait de pratiquer en solo, ça te permet en fait de découvrir tes limites.
Oui,
et donc, une fois que tu arrives devant un partenaire qui est une zone où du coup, qui est un peu plus dangereuse, voilà, tu es un peu plus en contrôle de tes limites, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Et ça permet de rester plus en sécurité.
Clairement. Et ça permet de changer le vocabulaire aussi, parce que si je vous dis préliminaire, j'imagine que vous avez les cheveux qui se hérissent sur la tête, non ?
Moi, ça me fait plutôt rire. Ah ouais. C'est tellement con, en fait.
Et les poils des tibias.
Les poils des tibias qui se hérissent, c'est pas mal. Donc, est-ce que pour vous, c'est un bouquin qui s'adresse aux femmes, ou est-ce que c'est un bouquin qui s'adresse plus largement à tous et toutes ?
Pour moi, c'est un bouquin qui s'adresse aux femmes, qui parle aux femmes. Nous, on n'est pas du tout dans une vision, enfermée, et on aimerait quand même vachement bien que les hommes ils le lisent. Quoi.
D'accord.
Et puis disons que les hommes qui aiment les femmes pourraient trouver 2-3 trucs dans le livre sur comment bien les aimer. Voilà.
Est-ce que vous avez des petites recos à nous partager, parce que comme vous avez rencontré, vous avez beaucoup de ressources dans ce livre, ça mixe plein d'univers. Est-ce que vous avez des recos cul ou culture pour nous épanouir un petit peu.
Je vais en faire une d'un film pornographique qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Le Puceau de 36 ans. Et qui, en fait, c'est l'histoire d'un... Enfin, c'est un porno documentaire. C'est un mec trans. Il a une vulve et un vagin. Il a eu plein de rapports sexuels, mais jamais pénétratifs, pénis dans le vagin.
Ouais.
Et il veut vivre ça.
Ouais.
Parce que, même s'il sait bien que c'est une notion construite, la virginité et tout, il veut vivre ça.
Ouais.
Et donc, il filme ce processus. Donc, d'abord, il choisit son partenaire. Et ensuite, c'est le tournage, il a choisi quelqu'un. Mais en fait... ça le fait pas. Il est pris d'émotion et tout. Et du coup, le film s'arrête là et ils se font juste un gros câlin.
D'accord.
Voilà.
Et
je trouve ça magnifique parce que tu suis tout le processus de ce qui peut se... Enfin, d'une narration sexuelle. Enfin, pas d'une narration, excuse-moi, mais d'une histoire sexuelle.
Ouais.
Ok, j'ai un fantasme.
Ouais.
Il faut que je trouve quelqu'un qui me plaît. Enfin, je vais trouver quelqu'un qui me plaît pour le faire.
Ouais.
Quel même fantasme qui est d'accord avec ça. Et en fait, t'as beau prévoir un max, au final, voilà.
Et qui ose dire non merci mais c'était chouette quand même.
Alors il y a un moment, moi je l'ai revu il y a pas longtemps parce que je l'avais programmé à une projection et donc voilà je l'ai revu de A à Z sur grand écran. Il y a un moment où en fait il se passe peut-être 30 secondes où il est pas bien.
Ouais.
Et il le verbalise pas encore.
Ouais.
Et du coup, c'est des trucs que je pense. En tout cas, moi, ça m'a grave parlé comme langage corporel. Tu sais, tu fermes les yeux et t'essaies de te mettre dans le truc, mais en fait, t'y es trop pas. Et en fait, ça, dans une salle de ciné sur grand écran, putain, ça te prend aux tripes.
Ouais.
Et tout le monde, je te jure, la salle, elle était en suspens. Et en fait, après, il arrive à le dire. Et il pleure. Il pleure dans les bras de son partenaire. Et en fait, du coup, son partenaire prend soin de lui. Et après, toute l'équipe de tournage vient sur le lit et ils se font un gros câlin ensemble.
Ouais, c'est un film qui est incroyable. Pourquoi il m'a touchée ? C'est parce que, en fait, là, on y parle d'intime, mais d'une autre manière, d'une manière, moi, que je n'avais jamais vue, en fait. Et moi, j'aimerais bien, justement, qu'avec Sextalk, on puisse questionner, qu'on puisse éclater toutes ces frontières qu'il y a, ton intime, mon intime, etc. Moi, mon intime, c'est celui-là, toi, ton intime, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'on sort de ces règles, quoi, tu vois, de ces trucs qui disent, ça s'arrête là, et maintenant, terminé, si tu vas au-delà, c'est pas bien. Voilà. Là, ce film-là, c'est un film pornographique, je crois.
Il est considéré comme un film pornographique.
Mais ça n'a rien à voir avec,
le
mainstream porno, etc.
Ouais, et puis en plus, on rentre dans une représentation du sexe qui n'est pas uniquement là pour forcément stimuler. Même si c'était clairement leur projet de départ, c'est pas ça qui se passe. Et en fait, c'est aussi ça qui se passe dans la vraie vie. Le projet de départ, c'était vraiment de s'envoyer en l'air et tout. Et puis parfois, c'est pas... tu te retrouves à raconter ta mère sur l'oreiller.
En tout cas, donc, votre bouquin porte bien son nom, le Sextalk, parce que l'idée est tout de même d'oser parler et de s'entourer. Et donc, en tout cas, eh bien, si vous n'avez pas les potes pour le faire, ou même si vous les avez, achetez ce bouquin et vous pourrez développer encore plus les débats. Surtout après 2h du matin, parce que les langues se délient. C'est mon moment préféré. Merci beaucoup, Olympe. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue me raconter. Le bouquin, il est sorti il y a 15 jours, aux éditions Iconoclaste. Merci. Hein. Au revoir.
Merci.